Vous êtes sur RTL.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
Il est 8h20 sur RTL. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, nous retrouve comme promis pour répondre à vos questions, chers auditeurs, au 3210. Merci de vous prêter à l'exercice, monsieur le ministre. On a une première question de Marc qui nous appelle de Chambéry, qui est routier. Bonjour Marc.
Oui, bonjour.
Alors, soyez le bienvenu, on écoute votre question.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur le ministre, très honoré. Monsieur le ministre, nous savons qu'un bon nombre d'islamistes radicaux vont être remis en liberté prochainement. Je souhaiterais savoir, comme beaucoup de Français, si nous avons les moyens de garder l'œil sur eux et de nous protéger ainsi.
C'est une question importante que vous me posez, monsieur. Et il y a tout un dispositif, un double dispositif qui est mis en place pour que dès qu'un homme condamné pour des faits de terrorisme recouvre la liberté, il soit immédiatement surveillé. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord un juge de l'application des peines qui s'appelle le JAPAT, juge de l'application des peines antiterroristes, qui surveille judiciairement
combien de temps
l'intéressé.
Combien de mois ?
Suffisamment longtemps pour que l'on ait des certitudes. Et puis il y a, pardonnez-moi de vous le dire, des mesures individuelles, administratives. Et ça, ce sont les policiers du renseignement, dont on connaît d'ailleurs l'efficacité, qui sont amenés, bien sûr, dès la première minute, là encore, à surveiller le terroriste qui sort. Clairement, je le dis, monsieur, et je le dis à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent, un terroriste condamné, quand il recouvre la liberté, il n'est pas sans surveillance.
Mais est-ce qu'il reste un danger ?
Madame Ventura, je dénonce suffisamment les propos démagogiques populistes pour promettre la lune. Le risque zéro, bien sûr, n'existe pas. Et si je vous disais ça, ma parole serait discréditée. En revanche, ce qui compte, c'est savoir que le gouvernement fait tout pour que, bien sûr, il y ait un véritable suivi. Et d'ailleurs, on souhaite encore l'améliorer, j'y travaille, et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré le parquet national antiterroriste pour que là encore, les contrôles soient renforcés. Et j'ajoute que nous travaillons avec la présidente de la commission des lois, Madame Braun-Pivet, à une loi qui va permettre de renforcer encore les mesures de sûreté pour assurer cette surveillance indispensable, monsieur.
On a une autre question, Éric Dupond-Moretti, de la part de Céline. Bonjour Céline.
Bonjour à tous, bonjour monsieur le Premier ministre.
Vous nous appelez...
Non, monsieur le ministre de la Justice, ça ira bien, madame, bonjour.
On écoute votre question, chère Céline.
Alors, en fait, il y a beaucoup de financements pour les mosquées et beaucoup de financements qui viennent de l'étranger. Comment est-ce qu'on peut être sûr de ces financements, que ce ne soient pas des mauvais financements ?
Les financements
Eh bien,
des mosquées.
Vous posez là une excellente question, vous savez. On est en train d'y travailler, en particulier le ministère de l'Intérieur. L'opacité quant au financement des mosquées vient de ce que les mosquées s'inscrivent dans les associations, je ne veux pas être trop technique, loi 1901. Nous souhaitons qu'elle soit régie désormais par une association cultuelle, loi 1905, ce qui permet un véritable contrôle. Et nous veillons à ce que les mosquées ne soient plus financées dans des conditions opaques. Les services de l'État, les services fiscaux en particulier, vont être extrêmement vigilants. D'ailleurs, pour tout vous dire, madame, il n'y a pas que les mosquées qui sont sous la surveillance. Et la surveillance, vous pouvez le croire, extrêmement minutieuse. Il y a aussi toutes les associations.
Quelle est la part de financement étranger de ces mosquées ? Parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent.
Écoutez, je ne peux pas répondre à votre question. Je vous ai dit que c'était à la main du ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas les chiffres. Je ne veux surtout pas vous raconter d'ineptie. Mais ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que nous allons exiger la transparence. Nous allons passer de l'opacité, qui est insupportable, à la transparence. Parce que nous savons qu'en matière de terrorisme, comme en matière de grand banditisme d'ailleurs, l'argent est aussi le nerf de la guerre.
Très bien. Merci beaucoup, Céline. On a une autre question de Bruno. Bonjour, Bruno.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez au 3210, on écoute votre question.
Oui, bonjour monsieur le ministre. Nous nous sommes connus il y a plus de 40 ans quand nous étions à Notre-Dame.
Ah bah tiens.
Et moi je peux témoigner de la passion qui vous anime depuis toujours.
À Valenciennes, voulais... hein, c'est ça.
Oui, c'est ça, Valenciennes, on était internes ensemble. Je voulais vous poser une question, c'est à propos de la surpopulation carcérale. On est bien d'accord qu'on parle là, avec la loi du séparatisme, de mettre encore des gens en prison. Est-ce qu'il n'y a pas toute une population qui n'a rien à faire en prison et pour lesquelles on pourrait trouver d'autres voies pour réaménager un petit peu leur éducation qui leur manque parfois?
Bon, Bruno, bonjour. À vrai dire, je ne vous reconnais pas à la voix, mais il y a 40 ans que nous nous sommes parlé. Mais si vous le voulez bien, vous laisserez à RTL votre numéro de téléphone, je vous contacterai tout à l'heure.
Bah, c'est mignon, si on peut servir
on
à ça.
On va pas faire ça publiquement, ça. Ben voilà. Ouais. Alors, pour le reste, vous posez une question qui est essentielle, parce qu'on est souvent dans la confusion des choses. Ce que je dis, ce que je soutiens, j'étais avocat, je le soutenais, je le soutiens encore, c'est que, bien sûr, on ne peut pas renier l'utilité majeure de la prison. Dans les affaires graves, dans les affaires où la société est en danger, il faut éliminer celui qui présente un potentiel de dangerosité quand il a commis une infraction grave. En revanche, il y a aussi une délinquance que l'on appelle de basse intensité, pour laquelle il faut réfléchir à autre chose que la prison. Parce que la prison doit punir, doit permettre la réinsertion, mais la prison, parfois, et nous le savons, est facteur de désocialisation. Et ça n'est pas possible. Donc il faut réfléchir avec nuance, il faut réfléchir avec intelligence, il faut réfléchir sans manichéisme. C'est pas pour ou contre la prison, c'est pour la prison et contre la prison quand on peut trouver d'autres solutions et quand elle est inutile. Voilà la réflexion qui est la mienne. Je la mène et je veux la mener bien sûr avec tous ceux qui, comme vous, me semble-t-il, à vous entendre, ont cette réflexion qui est une réflexion utile. Je pense qu'on a de mauvaises habitudes. Et d'ailleurs, je vais vous dire autre chose. Nous sommes dans un état aujourd'hui de surpopulation carcérale.
Ça fait des années qu'on en parle. Hein,
mais ça fait des années qu'on en parle. Et moi, je vous dis depuis quelques mois que je veux régler cette question. Et je dis que l'administration pénitentiaire avec laquelle je suis en contact permanent dit exactement la même chose, c'est-à-dire, bien sûr qu'on ne remet pas en cause la prison, mais que son rôle c'est aussi de réinsérer, et que parfois, des gens qui s'y trouvent, peut-être, ne devraient pas s'y trouver, il y a des peines alternatives à cette mesure de détention. Voilà la nuance telle que vous me permettez, et je vous en remercie Bruno de m'exprimer.
Merci Bruno, on va laisser vos coordonnées à monsieur le ministre dans un instant, vous pourrez vous reparler. C'est un bon élève Éric Dupond-Moretti?
Excellent, passionné.
Forcément. Très bien, merci beaucoup. Allez, on accueille Patrick au 3210, bonjour Patrick.
Tout le monde, bonjour monsieur le ministre.
On écoute votre question.
Bonjour monsieur.
Bonjour. Moi j'avais une question sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui on avait éventuellement les moyens de les surveiller, de les contenir, de tous ces contenus haineux qui amènent au drame qu'on vient de connaître récemment, et est-ce qu'on a les moyens de les combattre et de les empêcher?
J'y travaille très activement monsieur. Et j'y travaille sur deux terrains. Le terrain européen, avec mes homologues ministres de la Justice, avec les présidents de commission, Monsieur Renders, Monsieur Breton, les dispositions européennes vont être modifiées pour que les hébergeurs soient enfin responsables du contenu. Et en droit français, franco-français, nous allons évidemment reprendre la loi Avia le moment venu. Et nous allons, nous, en ce qui nous concerne, faire en sorte que ceux qui diffusent ce poison qu'est la haine en ligne bien sûr, soient immédiatement jugés devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une comparution immédiate. C'est fondamental parce que ce venin, au fond, nous fait un mal fou. Voyez-vous, c'est absolument terrifiant, on peut tout dire sur les réseaux sociaux, et moi, je souhaite bien sûr, et j'en ai la ferme volonté, que ça s'arrête.
Mais on a les moyens, vous avez annoncé tout à l'heure la création d'un pôle spécialisé au sein du parquet de Paris, mais il y a combien de personnes qui y travaillent? Quels sont les moyens?
Mais pardonnez-moi, c'est un pôle spécialisé qui va évoluer en fonction des attentes. Les attentes, c'est quoi? Ben, c'est Pharos Police qui va transmettre directement à des magistrats spécialisés pour que on arrête cette haine en ligne et pour que la loi, bien sûr, soit applicable et que on stoppe ce qui est en train de pourrir notre société.
Merci pour votre réponse à Patrick. On vous souhaite une belle journée, Patrick. Merci de nous avoir appelé. Une question d'Alba Ventura à présent.
Oui, monsieur le ministre, il y a un texte qui fait polémique en ce moment, c'est la loi sur la sécurité globale qui est examinée depuis hier à l'Assemblée. Et c'est un texte qui prévoit de punir la diffusion malveillante d'images, on parle encore des images, des forces de l'ordre en intervention. Et donc les défenseurs de droits de l'homme disent c'est une forme d'impunité pour les policiers, cette loi va cacher les violences policières. Qu'est-ce que vous dites de ce recul des libertés auxquelles ils font référence?
Je dis que vous allez peut-être un peu vite, parce que le débat vient de démarrer, c'est une...
Non, moi je ne fais que répéter les questions.
D'accord, alors vous répétez un peu vite. c'est une proposition de loi, donc elle émane de la représentation nationale, des parlementaires. Il y a des choses qu'il faut dire et qu'il faut préciser. D'abord, la police a le droit à sa sécurité. Les policiers ont ce droit. C'est bien la moindre des choses. Mais la presse a évidemment le droit d'informer. Et j'ai attiré, bien sûr, l'attention du ministre de l'Intérieur sur ces deux impératifs qui doivent pouvoir se conjuguer de façon harmonieuse et équilibrée. Aura-t-on le droit de filmer des manifestations? Oui. Aura-t-on le droit de diffuser des images? Oui. Aura-t-on le droit de se servir de ces images à des fins malveillantes? Vous l'avez dit, c'est extrêmement important. Pour nuire, dans le but de nuire, dans le but éventuellement que l'on puisse ultérieurement porter atteinte à l'intégrité des policiers, non.
Mais il n'y a pas deux poids, deux mesures si les policiers peuvent utiliser les caméras piétons ou éventuellement des drones avec ces images-là. À l'inverse, n'importe quel manifestant ne pourra pas utiliser d'images.
À des fins malveillantes, la diffusion, c'est quand même quelque chose. Et les mots ont un sens. Je ne suis pas à l'origine de cela, je l'ai dit, c'est une initiative parlementaire, les débats sont en cours, nous avons tous conscience des impérieux équilibres qu'il convient de trouver entre la sécurité de la police, la liberté de la presse.
Dernière question de Romain sur le web, le durcissement des lois...
Oui. Pardonnez-moi, et sur cette question, la GoPro qui sert à interpeller, c'est une initiative qui a été développée par ce pouvoir. Et c'est une initiative qui permet d'avoir une véritable transparence quant aux interpellations. Je tiens à le préciser.
Question web de Romain, monsieur le ministre. Le durcissement des lois est-il la meilleure solution contre les gilets jaunes qui ont encore frappé à Paris hier soir en marge de la manif contre votre projet de loi?
Répétez-moi la question, s'il vous plaît.
On dirait les inconnus. Le durcissement des lois est-il la meilleure solution contre les gilets jaunes qui ont encore frappé à Paris hier soir en marge de la manif contre votre projet de loi?
Contre mon projet de loi?
Contre le projet de loi du gouvernement, je cite texto là.
Mais écoutez, voyez l'état de droit, c'est aussi la liberté de manifester. Et je ne pense pas qu'on ait durci les lois contre les gilets jaunes, dont vous savez qu'ils sont parfois instrumentalisés à des fins politiques ou politiciennes. J'ai rien à dire d'autre. On peut pas à la fois dire « mais il y a une situation qui nous a tous endeuillés » et reprocher au gouvernement de travailler et de prendre les mesures qui s'imposent. Il faut savoir ce que l'on veut, voyez-vous. L'état de droit, ça protège la manifestation et le droit de manifester. Mais l'état de droit, c'est aussi, et ça n'est pas un gros mot, l'arme de la République pour lutter contre le terrorisme qui nous gangrène.
Elle ne vous manque pas, votre robe d'avocat, Éric Dupond-Moretti?
Si elle me manquait, j'y retournerai.
Et vous n'y retournerez pas?
Vous savez que je suis ici...
Après votre expérience au gouvernement, vous ne serez plus avocat?
Mais ça, on verra, monsieur. Je ne veux pas faire de projet de cette nature. Nous verrons.
Ou la scène vous manque, peut-être? Acteur?
Vous allez tout décliner,
non,
comme ça?
Non, je ne sais pas, je pose la question.
Ça, c'est de l'ordre de l'intime.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.